Allô, maman, économie.
Bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi, mais d'abord les titres. L'industrialisation au service de l'émergence de l'Afrique, thème retenu cette année pour la 6e réunion annuelle conjointe de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine, ouverte jeudi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Organiser des entrepôts dans les grands centres de consommation pour promouvoir la vente de produits locaux, c'est l'une des résolutions du forum économique de deux jours organisé par le ministère de l'économie et du commerce, clôturé mercredi à Kinshasa. Jean-Paul Nemoyato appelle ainsi les opérateurs économiques du secteur à poursuivre les réflexions au sein du cadre permanent de concertation économique. Baisse de la production de l'huile de palme à Louété en province orientale et la plainte de la société civile de cette entité, la réhabilitation de la voirie urbaine à Kinshasa qui influe positivement sur les activités commerciales le long des axes réhabilités, des interviews et reportages sont au menu de votre magazine. Un invité pour analyser et commenter l'actualité de la semaine, il s'appelle Patron Moulongo, opérateur économique du secteur agricole. Il est au téléphone depuis Lubumbashi. Patron Moulongo, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Bonjour.
Et devant ce micro, Berry Franklin Luchaka, Daniel Tambintoni, pour vous retracer la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Bienvenue.
Panorama Économique, le dossier.
Premier dossier de la semaine, la 6e réunion de la conférence annuelle des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine se tient depuis jeudi à Abidjan en Côte d'Ivoire.
Cette session est placée sous le thème « L'industrialisation au service de l'émergence de l'Afrique ». Je vous propose d'écouter le professeur René Kouassi, il est directeur du département des affaires économiques à la Commission de l'Union africaine. Pour lui, l'industrialisation est un passage obligé pour l'émergence du continent noir et il pense qu'il est temps pour les pays africains d'y réfléchir. René Kouassi est au micro de Paulin Monanga, notre envoyé spécial à Abidjan.
On peut se dire, mais pourquoi maintenant l'Afrique se pose cette question? L'intérêt est que beaucoup de pays africains cherchent à devenir pays émergents ou économie émergente. Les États se sont fixés déjà des échéances disparates. Donc nous nous sommes dit à la Commission de l'Union africaine, pourquoi ne pas inviter les ministres à réfléchir sur ce thème-là pour essayer de dégager des pistes qui vont aider les États à formuler leur politique industrielle.
Et est-ce que l'Afrique a des potentialités?
Nous détenons 60% de la surface cultivable au niveau de l'agriculture. Donc, une potentialité énorme de développer notre économie agroalimentaire, de développer notre agro-industrie. Actuellement, la part de l'industrie dans le PIB en Afrique est encore très faible. Les emplois créés par l'industrie est encore très faible. Donc, nous avons l'occasion, l'opportunité de réévaluer tout ça.
Qu'est-ce qui fait tarder cette industrie?
Les raisons sont multiples. Il faut dire, par exemple, on ne le dira jamais assez, à l'origine, il y a eu ce qu'on appelle le pacte colonial. Le pacte colonial, c'est un pacte qui interdisait aux colonies de produire ce que la métropole pouvait leur vendre. Et aussi, imposait aux colonies de ne commercer qu'avec la métropole. Et ensuite, il y a eu la politique d'import-substitution et d'export-substitution, mais la politique d'import-substitution surtout n'est pas allée assez loin en aval. C'est une politique qui s'est arrêtée jusqu'à présent, après plus de 30 ans, 20 ans, à la phase facile. N'est pas allée à la deuxième phase qui consistait à produire des biens d'équipement, des biens durables, des machines-outils, etc., etc. Donc l'Afrique s'est contentée à la phase facile de l'import-substitution.
Retrouvons à présent depuis Lubumbashi au téléphone Patron Moulongo, vous avez suivi ce dossier. Les ministres de l'économie et des finances se retrouvent pour réfléchir sur l'industrialisation de l'économie africaine pour qu'elle marche sur le chemin de l'émergence. Et là, on veut mettre un accent particulier sur le secteur de l'agriculture, industrialiser l'agroalimentaire de l'Afrique. Vous pensez que c'est une solution, monsieur Moulongo?
Je pense que c'est une solution. D'abord, il faut comprendre que la pauvreté qui touche l'Afrique, la majorité des pauvres se trouvent en zone rurale et vivent de l'agriculture de subsistance. Vous comprenez que s'il y a une modernisation de cette activité, il y a une création d'emplois qui est sûre et à partir de ce moment-là, une valeur ajoutée sur le produit va faire que l'économie soit boostée et les pays africains peuvent compter parmi les pays émergents. Je crois que c'est très important que l'industrialisation passe par là, parce que l'avantage, évidemment, c'est la valeur ajoutée, l'emploi qui est créé, et puis, avec l'exportation, si l'agriculture est modernisée, c'est une source de devise qui est sûre. Donc, je suis vraiment convaincu que ce serait une bonne politique, ce serait judicieux de passer par l'industrialisation, surtout du secteur agricole, même s'il faut penser aux autres secteurs. Mais avec le secteur agricole, je crois que ça va aller plus vite et que c'est possible qu'on puisse compter parmi les pays émergents.
Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que sur le chemin de l'industrialisation de l'agroalimentaire, la RDC est déjà engagée ou il lui faudra encore beaucoup de temps pour vraiment industrialiser ce secteur?
Bon, je crois que la RDC commence à s'engager. Vous savez, ce qu'il faut noter, c'est plus le paradoxe, hein. Parmi les pays qui ont une croissance économique, hein, parmi les 10 pays qui ont la meilleure croissance économique au monde, on compte 6 pays africains, et parmi ces pays, il y a la RDC. Il y a la RDC. Mais il y a un paradoxe, c'est que la croissance économique ailleurs s'accompagne avec une amélioration de la condition de vie des populations. Je crois que c'est un paradoxe qui doit être résolu ici. On remarque qu'il y a toujours des inégalités, il y a toujours la pauvreté, et dans l'entretemps, on parle quand même de croissance économique, et je crois que ça, c'est une explication qui passe difficilement au sein des populations. Vous n'allez pas leur dire que, la condition du pays s'améliore, mais dans l'entretemps, c'est l'extrême pauvreté. Voilà, c'est ça le paradoxe. Et je crois qu'il faudrait qu'on arrive à résoudre ce paradoxe. Il faudrait que les chiffres, les statistiques qui sont données soient palpables au niveau de la population. Et je crois que ça, c'est le défi qui devra être relevé. Donc je me dis, c'est encore timide, c'est pas ça, mais il faut beaucoup d'efforts pour qu'on y arrive, et c'est pas impossible du tout.
Parlons à présent du Forum économique national de la RDC qui a vécu cette semaine à Kinshasa, et à l'occasion, le ministre de l'économie et commerce qui l'a organisé a déclaré que la RDC débourse chaque année plus d'1 milliard de dollars américains pour importer des produits alimentaires.
Le Forum économique national s'est clôturé mercredi sur une pile de recommandations d'Daniel, mais dont la primeur était réservée, selon le ministre Jean-Paul Nemoyato, au Premier ministre. Le moins que l'on puisse dire jusque-là, c'est que les experts du gouvernement et les membres de la FEC présents aux assises avaient reçu mission de trouver un début de solution à ce problème, une solution qui se trouverait dans la relance de la production agricole et de l'industrie manufacturière.
Réduire la dépendance de l'économie nationale vis-à-vis de l'extérieur, assainir les climats des affaires et des investissements en RDC, tels sont entre autres les objectifs de ces forums, a mentionné le ministre de l'économie et commerce. Au cours de ces assises, les participants vont se pencher notamment sur la fiscalité et la parafiscalité, les banques et assurances, les climats sociaux dans les entreprises congolaises, ainsi que l'agriculture et les ressources naturelles. Cette réunion devra donc aboutir à des voies d'action menant à la relance de la production agricole et industrielle, a précisé Jean-Paul Nemoyato.
J'ai constaté que chaque année, mon pays débourse près de 1,3 milliard de dollars pour financer les importations alimentaires. Ce qui n'est pas acceptable pour un pays comme nous, compte tenu des potentialités agricoles naturelles et les avantages comparatifs que le pays peut forger dans le domaine de la production agricole alimentaire.
La Fédération des entreprises du Congo souhaite que les résolutions de ces forums ne restent pas lettre morte. Elle a appelé le gouvernement à travailler en synergie avec les patronats congolais. Ambroise Tchioyo, président de la commission relations extérieures à la FEC.
Le ministre de l'économie a reconnu lui-même, il a dit que la croissance, c'est vrai, il y a une croissance. Mais qu'est-ce qu'elle vaut une croissance sans développement? La FEC a dit, je pense que ça se limite à des discours.
Outre la FEC, les membres des missions diplomatiques accréditées en RDC ont également participé à l'ouverture de ces assises.
C'était un reportage de Paul Matendo.
Merci Berry, merci Paul. Et monsieur Patron Moulongo, c'est une bonne coïncidence, tous les sujets convergent vers votre secteur d'activité, l'agriculture bien entendu. Un forum où le ministre dit « J'ai constaté que plus d'1 milliard sortent chaque année de la caisse de la RDC pour importer quoi ? Les produits alimentaires, les produits agricoles, alors qu'on parle de plusieurs hectares qui sont très arables, qui peuvent nourrir 1 milliard de la population du monde. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire?
Bon, déjà, je me dis que c'est déjà bien d'en parler, de faire ce constat, mais ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Mmh. Imaginez ne fût-ce qu'un demi-milliard, reversé dans le secteur agricole. Je dirais peut-être même 250 millions, je ne sais pas, reversés dans le secteur agricole. Je crois qu'on résoudrait bien beaucoup de choses. Je me dis, bon, au-delà de cette volonté qui a toujours été mise et qui ne date pas d'aujourd'hui, on aimerait bien voir qu'on aille un peu plus. Ça commence, mais il faut voir. Je crois que c'est important vraiment que le secteur agricole soit revalorisé. Mmh. Et c'est la voie par laquelle la RDC pourrait sortir. On peut faire, on invente à la roue. Faisons comme les autres, les États-Unis, Grande-Bretagne. Quand vous voyez l'histoire de ces pays, vous allez voir que c'est des pays qui se sont d'abord appuyés sur le secteur agricole, sur l'agriculture. Je crois que les imiter, ce serait pas mauvais, ce serait pas péché.
Oui, Monsieur Mlongo, le Premier ministre venait de lancer un programme agricole, je crois, à l'enveloppe de plus de 57 millions de dollars, quelque chose de ce genre-là. Je ne sais pas si ma mémoire est encore bonne par rapport aux chiffres, mais je pense que c'est 57 millions de dollars qui ont été investis. Vous qui œuvrez dans le secteur, qu'est-ce que vous conseillerez au gouvernement? Parce qu'on a vu l'expérience avec la distribution des tracteurs qui n'ont donné aucun résultat aujourd'hui. Mais avec ce nouveau programme qui est lancé, comment aimeriez-vous, vous qui êtes dans le secteur, que ce programme se tienne?
Bon, d'accord, je n'aimerais pas dire des choses. Il faudrait d'abord maîtriser ce programme, savoir comment il est axé, sur quoi exactement. Mais je crois que le secteur agricole, lorsqu'on en parle, il faut le voir d'une manière un peu multidimensionnelle. Il faut voir tout ce qui freine, toutes les pesanteurs qu'il y a dans ce secteur, pesanteurs qui font que ce secteur n'évolue pas. Il y a par exemple les routes de desserte agricole, si c'est dans le programme, je crois que c'est bon. Il y a la modernisation même de l'agriculture. L'agriculture, pour le moment, elle est encore de subsistance. On n'est pas encore moderne. Il y a ça qu'il faudrait étudier. Il y a l'acquisition des semences qui soient compétitives, qui soient améliorées pour permettre une bonne production. Il y a évidemment cette agriculture verte qui veut que on ne puisse pas vraiment faire une déforestation intempestive ou pour le moment faire une agriculture qui respecte les conditions de l'objectif du millénaire pour le développement. Donc il y a vraiment beaucoup de paramètres qui doivent intervenir et faire que l'agriculture soit une agriculture porteuse de développement. Bon, maintenant, par rapport à ce programme, les chiffres, on les entend toujours. Et parfois, c'est des chiffres faramineux qui font rêver et tout ça. Moi, je crois que ce qui est important, c'est une utilisation efficiente de ces chiffres qui sont donnés et que vraiment, ça s'adresse à ceux qui sont dans le secteur et qui savent comment est-ce qu'ils peuvent se débrouiller dans le secteur. Il y a les banques qu'il faut ajouter, parce que juste là, en termes de financement, d'investissement, les banques sont frileuses avec le secteur agricole. Il y a les subventions de l'État, ça a commencé avec les tracteurs, et la première expérience a été catastrophique. Maintenant, ça semble s'arranger et aller de mieux en mieux. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, et beaucoup de choses qui doivent être arrangées, et qui feront que ce secteur, finalement, puisse amener la RDC à la place qu'elle doit avoir, c'est-à-dire parmi les grandes puissances économiques de l'Afrique et pourquoi pas de ce monde.
Et cela permettra de pouvoir relever le paradoxe que vous avez évoqué dans le premier commentaire.
Justement.
Ça permettra de relever le paradoxe. Vous savez, c'est qu'il y a beaucoup de différences quand, par exemple, on parle de croissance économique. Lorsqu'il y a des industries qui s'arrêtent à un certain niveau, il y a des industries qui ne produisent pas de l'emploi. Lorsque les industries arrivent et que, au niveau des taxes par exemple, il y a beaucoup de fraude, donc il y a beaucoup de conditions qui font que finalement, vous ne sentez pas le bénéfice de la croissance économique dont on nous parle. Alors il faudrait à tout prix que le secteur, et c'est pas seulement le secteur agricole, mais il faudrait à tout prix qu'il soit vraiment arrangé et que les vrais problèmes soit posé, diagnostiqué et qu'on trouve à ces problèmes de vraies solutions.
Agriculture encore dans ce dossier parce que le secteur est aujourd'hui...
Il est en train de bouger pratiquement.
Il est en train de bouger et il a marqué l'actualité cette semaine. On reste dans le secteur de l'agriculture où l'administrateur de territoire de Kabongo a interdit la campagne agricole dans son entité. Il a annoncé dimanche dernier lors d'une adresse populaire.
Selon l'administrateur du territoire Innocent Andia, l'interdiction porte sur l'achat d'une quantité de plus de 50 kilos. Une décision pas du tout appréciée par la FEC qui estime qu'une telle décision ne relève pas de la compétence de l'administrateur du territoire.
Et toujours dans le Katanga, le président des commerçants importateurs de l'étranger s'insurge contre l'attitude de certains de ses membres qui spéculent justement sur le prix du sac de farine de maïs.
Édouard Soumaïli voit de mauvais œil cette pratique par certains membres de son association qui consiste à aller acheter de la farine de maïs à 13 500 francs au centre-ville pour aller le revendre à la cité à 18 000 francs, voire 20 000 francs congolais. Et pour étouffer ce phénomène, il propose à d'autres commerçants d'aller acheter la farine de maïs dans d'autres pays pour inonder le marché local.
Voilà, Monsieur Moulongo, l'administrateur du territoire qui interdit la campagne de maïs dans son entité et tout de suite il entre en polémique avec le président de la Fédération des entreprises du Congo. Et de l'autre côté, une mauvaise pratique, je ne sais pas s'il faut appeler ça une mauvaise pratique, par les commerçants qui vont acheter à 13 000 et qui viennent revendre jusqu'à 20 000 et puis ça n'arrange pas l'association des importateurs de l'étranger. Un petit commentaire ?
Oui, je crois que pour l'administrateur, c'est le parfait exemple parfois de l'État qui, parfois, dans des domaines où il devrait laisser se développer le secteur privé, il va interdire, je ne sais pas pour quelle raison, encore faut-il savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il interdit, est-ce qu'il y a une guerre là-bas, il y a des épidémies, pourquoi est-ce qu'il...
Il interdit d'acheter plus de 50 kilos pour craindre peut-être une pénurie prochaine dans son entité.
Oui, mais quelle est la politique? Le vrai problème, il faut aller un peu plus bas. Pourquoi il y a cette pénurie? Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse avoir cette pénurie? Est-ce que son interdiction, là, règle réellement le problème? Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut toujours que le secteur public travaille en parfaite harmonie avec le secteur privé. Et ailleurs, d'ailleurs, on est en train d'encourager le secteur privé parce que le secteur privé est porteur de devises, porteur d'une économie. Il faut vraiment que l'initiative privée soit encouragée parce que c'est elle qui alimente sérieusement l'économie. Et elle permet aussi de générer de l'emploi. Évidemment, il faudrait qu'elle respecte aussi certaines règles du jeu. Ça, c'est important. Donc, je pense pour ma part que c'est vraiment de mauvaise loi que cet administrateur a pris cette décision. Encore faut-il comprendre si sa motivation reste celle-là ou il y a des motivations cachées. Il a peut-être une bonne intention, mais est-ce que c'est vraiment la solution? Je ne pense pas.
Parce qu'on sait qu'on produit pour écouler et lorsque vous produisez, on vous demande de ne pas écouler. Vous voyez ce que ça fait? Des fois, on apprend que dans telle ou telle autre entité, le maïs est utilisé comme bois de chauffe et ça n'arrange pas le producteur.
Mais il y a tout ça, surtout que c'est à l'intérieur du pays et les techniques qui sont utilisées là-bas, c'est des techniques compliquées. Et vous savez, ceux qui font les champs là-bas, souvent c'est une agriculture de subsistance. La même production, il y a une partie qui est gardée pour la consommation. Pour vraiment, quand on dit subsister, c'est manger et puis c'est tout. Vous ne savez pas vous payer des habits et tout ça. Et on vous empêche de vivre. On vous empêche de vivre. Et ça, je ne sais pas de quel droit il prend ça, s'il en a le pouvoir, mais je trouve que c'est quand même très osé. Et puis, une telle décision, en principe, il devrait se concerter avec les membres de la FEC, avec les opérateurs agricoles qui sont là-bas. S'il y a un problème, il peut se concerter pour trouver une solution qui soit judicieuse et qui règle le problème qu'il connaît. Et il faut savoir aujourd'hui la règle de marché, ça n'a pas changé, c'est empiré, c'est depuis les temps que c'est la loi de l'offre
et de la demande qui dirige le marché.
Il faudrait bien tenir compte de tout ça, mais malheureusement, maintenant l'administrateur en question, je ne voudrais pas paraître insultant, mais est-ce qu'il comprend cette logique? C'est des questions à se poser.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre info de la semaine en bref, début depuis mardi matin à Kenge de la paye des salaires des enseignants par la voie bancaire.
Kenge est une cité de la province de Bandundu située à 280 km à l'est de Kinshasa. 800 enseignants du primaire et secondaire touchent leur salaire du mois dernier par les agences de l'entreprise des télécoms Airtel. Selon le chef d'agence Airtel Kenge, la paye devrait durer 4 jours. Toujours selon la même source, des comptes bancaires sont ouverts au nom des enseignants à la Raobank.
Hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant signalée ces jours sur le marché local de Nyanya. C'est à 190 km de Mambasa au sud de Bounia dans la province orientale.
Selon les sources locales, le prix du litre d'essence est passé de 1750 francs il y a une semaine à 2500 francs congolais aujourd'hui. De même, un kilo de riz revient à 2400 francs alors qu'il y a une semaine il revenait à 1800 francs. Un gobelet des haricots se vend actuellement à 700 francs contre 500 francs. Et quant au prix du carburant, ces sources parlent d'une pénurie de carburant à Nyanya ainsi que ses environs. À la base, l'état de délabrement de la route nationale numéro 4 et la multitude des barrières érigées par les militaires sur le tronçon routier Mambasa-Nyanya et Nyanya-Kisangani en sont d'autres causes. Les commerçants sont obligés de payer de l'argent à chacune de ces barrières.
La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont tenu ce mercredi à Kinshasa la revue conjointe des performances de leur portefeuille.
Il s'agit de l'évaluation des différents projets et programmes de la RDC financés par ces institutions internationales. Les experts de la Banque mondiale, de la BAD et de la RDC ont eu à réfléchir sur l'usage des systèmes nationaux de gestion dans la mise en œuvre des projets. 3 milliards 800 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que disposent ces deux institutions de Bretton Woods pour soutenir leurs interventions 2013 en RDC.
Les commerçants opérant dans les marchés urbains de Mbujimayi dénoncent la multiplicité, la hausse même des taxes, nous en parlions mercredi.
Il s'agit des taxes et impôts dont le taux serait passé du simple au triple et voire plus selon les commerçants. Ils menacent même de fermer leurs activités si cette situation persiste. Le maire de Mbujimayi, lui, ne reconnaît pas cette hausse.
Nous allons remonter vers le Katanga où la société civile de Kanyama se réjouit de l'application dans ce territoire de la mesure du gouvernement provincial interdisant la commercialisation de certains produits agricoles avant le 15 avril.
Le 15 avril coïncide avec l'ouverture de la campagne agricole. Selon son président, cette année, la mesure a été respectée. Des agronomes appuyés par des éléments de la police assurent la surveillance, ce qui a comme conséquence positive la baisse du prix du maïs sur le marché local de Kanyama. Un seau de 2,5 kg de maïs qui coûtait 2500 francs il y a 4 mois se vend aujourd'hui à 500 francs.
Panorama économique, reportage.
Oui, le reportage de la semaine. Depuis 4 ans, le gouvernement congolais s'est lancé dans un programme de construction et de réhabilitation des routes en province, tout comme dans la capitale. Pour certains observateurs, des centaines de milliers de dollars ont été investis pour la seule voirie urbaine de Kinshasa qui n'a visiblement aucune importance économique. Mais votre magazine, qui a fait le tour de certaines routes réhabilitées, a constaté par contre que cette réhabilitation a eu un impact positif sur les activités commerciales des populations. Jocelyne Moussaopondé était sur les routes de Kinshasa et voici son reportage.
L'avenue Mouchi, dans la commune de Lingwala, a été réhabilitée il y a 3 ans maintenant, après plusieurs années d'abandon. Mais qu'est-ce qui a changé depuis la fin de travaux et son ouverture au trafic? Écoutez cette habitante de cette avenue qui en plus est commerçante.
C'est bon dit.
Derrière le palais du peuple, plusieurs commerces ont vu également le jour, alors qu'auparavant, personne n'y exerçait une quelconque activité commerciale.
Depuis qu'on a arrangé cette route, c'est très fréquenté, même des activités commerciales commencent à prendre de la valeur.
L'avenue Lumière, au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, a été ouvert à ses usagers il y a plus ou moins 5 mois. Ici, il n'y avait jamais eu d'asphalte. Cette ouverture a favorisé la création de certaines activités, comme le transport en taxi. À l'époque, les habitants de ce coin devaient parcourir des longues distances à pied pour atteindre la grande route, du moins pour ceux qui ne voulaient pas prendre le risque en moto. Et l'activité est plutôt rentable, affirment les automobilistes. Autant d'avantages sur les activités commerciales à Kinshasa grâce à la réhabilitation de routes urbaines, mais seulement l'entretien doit suivre pour ne pas un jour revenir à la case départ. Cette dame l'explique bien.
Pour le commerce, et meni biso bien pour transport et comme plus facile. Au moins biso si tu biso da côté comme ça, va comme comme au côté facilement que n'y ait de la qui libosso. Mais le côté zo senga.
Merci Jocelyne Moussaou. Bon week-end. Et c'est par là que nous allons terminer Panorama économique de cette semaine. Monsieur Moulongo, vous analysez, commentez cette actualité avec nous. La réhabilitation de certaines artères de la voirie urbaine qui redonne un peu de la vie aux activités commerciales.
Oui, vous voyez, c'est important. Imaginez au niveau du centre,
centre-ville,
la voirie, c'est qu'elle apporte. Vous voyez ce qu'elle apporte. Qu'est-ce qui se passe? On rapproche en fait les centres de consommation, on les rapproche des consommateurs. Et je crois que là, il y a un gain qui est évident, il y a de l'emploi qui se crée. Et imaginez maintenant que cette voirie continue et que les routes de desserte agricole aussi soient réhabilitées. On aura un boom qui sera sérieux dans l'économie. Donc je crois que il est clair que cette voirie apporte un plus pourvu que l'entretien suive et pourvu que la réhabilitation justement de la voirie urbaine continue.
Et donc vous partagez les mêmes inquiétudes que la dame qui a parlé en dernier.
Oui, je les partage parce qu'il ne suffit pas d'arranger et de placer, tout comme on dit, il ne suffit pas de construire,
encore maintenir,
entretenir. Lorsque l'entretien ne suit pas, il y a problème. Et l'entretien même ne doit pas, on ne voit pas ça seulement en termes... Je crois qu'il faut une prévention aussi, par la sensibilisation de la population, et je crois que ça manque. Alors que les gens, il y a des endroits où il n'y avait pas des routes, il y a des routes, mais les gens, ils ne changent pas de comportement. Donc il faut aussi sensibiliser la population à une bonne utilisation, par exemple des caniveaux, à une bonne utilisation des routes, tout ça, il faut le faire. Donc je pense que l'entretien doit suivre, oui.
Oui, monsieur Moulongo, comme il est de coutume dans Panorama économique, on finit toujours par l'activité que mène l'invité de l'émission. Nous vous avons présenté comme opérateur économique du secteur agricole. Effectivement, qu'est-ce que vous faites, monsieur Moulongo?
Je produis le manioc essentiellement, mais aussi des petites cultures telles que les patates que je commence et le piment au plateau des Batéguiers. Mmh. Il est transformé et distribué au niveau de Kinshasa. Et nous le faisons aussi en association. Nous nous sommes réunis en association pour pouvoir mieux travailler. C'est l'association des producteurs et transformateurs de manioc. Voilà.
La production, on peut l'estimer à combien par saison culturelle?
Par saison culturelle, actuellement, par hectare, c'est environ 10 tonnes. Mmh. Environ 10 tonnes. Et par saison culturelle, ça va montant. Donc là, je vais aller vers les 60 tonnes. J'avais commencé avec pratiquement 3... Vers les 60 hectares, j'avais commencé pratiquement avec 5 hectares. Donc je continue et j'espère arriver plus haut.
Merci, et c'est sur cette note-là que nous allons refermer Panorama économique de cette semaine. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation qui ne sera pas la dernière.
je l'espère, et c'est moi qui vous remercie.
Merci à vous aussi, Béry Franklin Le Chaka, de nous avoir accompagnés dans la présentation de Panorama économique.
Tout le plaisir était le mien.
Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vos remarques et suggestions, nous les attendons à seo@radiookapi.net et retrouvez Panorama économique toute la semaine sur www.radiookapi.net. Au revoir.